René Boislève, La Becquée, en exergue, ressemblant aux petits oiselets qui ne peuvent encore voler et qui bâillent toujours attendant la becquée d'autrui, à Millau. Chapitre 1, l'événement. Les petites pergelines montrèrent le nez en riant. Elles ne se tenaient pas de joie lorsqu'elles avaient pu entrer sans sonner et parvenir à pas de loup par le corridor jusqu'à l'entrée de la cour. Mais elles prirent aussitôt la figure penchée de toutes les personnes qui se présentaient à la maison. « Mon pauvre Riquet, est-ce qu'on peut monter dire bonjour à ta pauvre maman ?» La bonne Adèle, qui allait puiser de l'eau, répondit pour moi. « Bien sûr que oui, mademoiselle. Madame a voulu se lever pour voir passer monsieur en militaire. Vous la trouverez sur son fauteuil en attendant le tambour. Et chez vous, toujours pas de nouvelles de ce pauvre monsieur Paul ?» Les deux jeunes filles levèrent les sourcils et les bras. « Rien, mais les Prussiens sont à Tours. Ils ont lancé un obus contre l'hôtel de ville et un autre qui a tué 3 personnes rue Royale. » « À Tours, mon bon Jésus, si près de chez nous, vous n'allez pas répéter ça là-haut, madame a une peur. » Elles tournèrent les talons, chacune un doigt aux lèvres. Adèle accrocha l'anse de son seau à la boucle humide du petit mitoyen, du puits mitoyen, et sollicita d'une main la chaîne qui se dévida rapidement, faisant grincer la poulie. À ces cris d'oiseaux, il était rare que la servante du capitaine Chevreau ne se montrât pas de l'autre côté, et les deux femmes causaient pendant que le seau buvait. Quelquefois, on apercevait le vieil officier retraité fumant la pipe ou sciant du bois dans la cour. La domestique voisine entrebâilla en effet la porte du puits. Elle avait l'œil émerillonné et elle nouait les brides d'un bonnet propre. « Ils sont partis du bout de la ville, dit-elle. Dans 5 minutes, ils vont passer sous les fenêtres. C'est monsieur qui les commande tous. Une, deux, oh, faut voir, et de la musique et des rataplans. »« Montez vite, me dit Adèle. » La malade était assise près d'une fenêtre. Elle portait un peignoir de laine rayé de blanc et de bleu. Elle avait une figure régulière et douce. Elle se plaignait du poids de ses cheveux. Ses yeux semblaient toujours vous regarder de loin. On n'osait pas toucher ses tempes en l'embrassant, tant la peau était mince sur les fins ruisseaux des veines. Elle m'attira et me tint longtemps près de sa joue, tandis que Marguerite Pergeline et sa sœur Georgette, les mains posées en araignée sur les vitres, épiaient le passage de la garde nationale. Les deux jeunes filles sautèrent, on entendait le roulement de tambour et le filet de voix bravache du clairon tournant la rue. Les fenêtres s'ouvrirent malgré le froid. L'horloger papillot que l'on voyait derrière la buée travaillait entre deux globes de pendule, quitta sa loupe et vint en boitant se ranger vers devant la boutique. Les murs se garnirent de femmes, l'enfant au bras, de vieux bonshommes, la goutte au nez, et on se bousculait contre la grille de la boucherie. Le maître clerc de mon père, long garçon malingre, nous souriait, niché à demi dans le ventre ouvert d'un bœuf à l'étal. « Les voilà, les voilà !» Une écume de gamins, coiffés de chapeaux de gendarmes en papier, brandissait les sabres de fer blanc, des lades et manches à balai, était poussé par le couple tonitruant du tambour et du clairon. Un éclair, un déchirement de l'atmosphère, une pétarade de notes martiales, cassa toutes les figures et les laissa un moment grimaçantes. Suivait une lourde masse d'espèces de soldats sans couleur qui pilaient le sol avec des jambes de plomb. Le capitaine Chevreau, l'épée fulgurante, bedonnait en tête. « Oh, comme c'est beau !» dit Georgette. « Oh oui !» dit Marguerite. Elle nommait un à un ces messieurs qu'elle reconnaissait. Oh, « Madame Nadeau, voilà votre mari !»« Riquet, mais regarde donc ton papa !» Il nous favorisait d'un coup d'œil oblique et inclinait courtoisement vers nous la pointe de son sabre. Il portait un képi à galon blanc, d'un effet curieux, au-dessus de ses favoris de notaire. Je réfléchissais de toutes mes forces. Alors, c'est ça la guerre? Oh, la guerre, dit Georgette, c'est bien autre chose que ça. T'as donc jamais vu Paul en uniforme? Sa sœur aînée fit signe de se taire devant la malade. On essayait de lui cacher les progrès de l'invasion, dont chaque étape nouvelle l'étouffait. En quittant la fenêtre, nous la trouvâmes retombée dans son fauteuil. Elle grelottait et pleurait. On me renvoya comme toutes les fois que les choses tournaient au sérieux. Alors va jouer, mon petit bonhomme, et sois sage. Derrière mon dos, Marguerite disait: mais de quoi vous tourmentez-vous? Faut bien qu'on apprenne à ces messieurs le maniement du fusil. C'est pas une raison pour qu'ils s'en servent. Et Georgette: rassurez-vous, madame, on affirme que l'obus de tour sera le dernier tiré. Dans l'escalier, je criai à la bonne: Adèle, tu sais que Georgette a dit ce que tu lui avais défendu. Adèle traversait le corridor en coup de vent. Monsieur Harry, voilà la calèche de Courance avec votre grand-tante plantée. Je vis trois doigts de bas blanc au-dessus de la bottine qui tâtait le marchepied, et puis la tête de Félicie plantée se releva. Elle faisait des yeux de poule pourchassée. Ma pauvre Adèle, j'avais à causer avec monsieur et voilà-t-il pas que je le rencontre au milieu de cette chair à canon. Quand va-t-il rentrer à présent? Eh là là, madame plantée, qu'est-ce qui serait en état de vous le dire? Ils vont tirer sur la route de la ville aux dames. Mais c'est cela, de sorte que nous aurons l'avantage de traverser de nouveau ce tohu-bohu en retournant à Courance. La jument a failli s'emporter. Sur le siège, Fridolin aspirait l'air du coin de la lèvre. Il savait le faire siffler par une petite brèche entre les dents. C'est ainsi qu'il préparait ses paroles. Je demande bien pardon à madame. Ce serait-il heure de rencontrer Bismarck? Oh, je réponds de ma jument. Félicie entra. Lorsqu'elle fut dans l'ombre du corridor, elle pinça la manche d'Adèle. Ma fille, il ne s'agit pas de perdre le temps. Vous allez me faire un paquet de l'argenterie, entendez-vous? Comptez-la et mettez-moi les chiffres sur un bout de papier. Il faut enterrer tout ce qu'il y a de la valeur. Oh, j'aurais voulu voir monsieur pour les bijoux de madame. Mais vous allez la voir, madame Plantée. Elle est avec mademoiselle Pergeline. Elle lui parlait point du tout, ça, bien entendu. Oh là, mon Dieu, faut-il? Adèle continua de gémir en fissant les cuillères, les fourchettes, les couteaux à fruits, les compotiers, la truie et la poisson, matin mal. Elle s'interrompait pour aller au puits. La poulie chantait comme un moineau au coucher du soleil, et la bonne du capitaine était informée. Georgette et Marguerite descendirent avec la permission de m'emmener chez elles pour me faire aller à la balançoire. Le sol de leur jardin avait la coriacité du roc. On voyait, çà et là, dans les plates-bandes, de malheureux choux gelés. Mes amis me lançaient très haut, mais elles m'arrêtaient vite, de peur que je n'eusse mal au cœur, et elles montaient à ma place, toutes les deux, nez à nez, pour longtemps, en parlant mariage. « Mais quand est-ce que vous aurez fini? Bientôt !» Mais elles ployaient les jambes pour s'élancer de nouveau. Leur robe formait tour à tour une grande pointe derrière les jambes, et le vent froid leur rougissait les joues. Madame Pergeline, leur mère, me composa une tartine de mirabelle et m'apprit qu'on disposait à m'emballer avec l'argenterie pour me transporter à Courance. « Vas-tu, mon petit, tu commences à faire trop de bruit dans la maison pour ta pauvre maman. Et puis on ne sait pas ce qui peut t'arriver. » Quand je rentrais, la calèche était encore à la porte et Fridolin, selon sa coutume, adressait à un groupe d'hommes des expressions à lui toutes particulières, sentencieuses et comme découpées dans les reins. Je trouvais Félicie en compagnie de mon père qui me toucha l'oreille et me dit: « Ah, oh, c'est toi, gamin? Félicie frappait du poing une petite table. Et si vous avez 4 sous, disait-elle, achetez de la terre, ils n'en porteront pas à leur semelle. Il objectait qu'on l'accuserait d'avoir profité de la panique. Félicie s'agitait. Oh, si j'avais seulement un rouge liard, moi. Mais en dehors des fermages de courance, pas ça, voyez-vous, pas ça. Mon père sourit en notaire qui connaissait la propriété de Courance et un peu en héritier. Voulez-vous que nous échangions votre fortune et la mienne? Oh, vous croyez que c'est brillant, vous, avec toutes les bouches que j'ai à nourrir, mes deux tantes Adélaïde et Victoire, la vieille tante Gio, ma sœur Xélina, depuis la ruine de cet esservelé de Fantin, lequel me tombera sur les bras un jour ou l'autre. Le frère de votre femme, Philibert, qui crie la faim à Paris, sans compter la fille du mari Pédier Pidou, que mon mari s'est mis en tête d'élever comme une princesse. On avait allumé la lampe. De Félicie, on ne voyait guère que la main extrêmement blanche, fine, aux fibres mobiles, aux vaisseaux saillants, et qui battait avec entêtement la table. Mon père était un peu coquet. Il avait gardé son sabre, et chacun de ses mouvements nous valait un cliquetis insolite. « J'amène le petit, » dit Félicie. « Avez-vous les bijoux ?»« Ben non, ils sont dans l'armoire en face de son lit. »« Voyons, pendant que l'enfant lui dira adieu, faites donc semblant de prendre un mouchoir. » Nous montâmes à la chambre en marchant sur la pointe des pieds. De la porte, nous entendîmes ma mère sangloter. Elle était au lit. Elle s'ébongeait les yeux et le chagrin lui tirait par en bas les deux coins de la bouche. On m'approcha du lit. Je me sentis pris à la taille par ce bras blanc qu'on m'abandonnait le matin pour jouer quand je venais dire bonjour. Il me souleva, je ne sais comment. Je me trouvais sur le lit, dans les larmes et dans les baisers. Mon pauvre petit, pourvu que je te revoie. Oui, maman, on disait derrière nous, c'est pas une séparation éternelle. Oh, que sera-ce plus tard quand il ira au collège et quand il sera soldat? La bouche qui pressait mes cheveux balbutia au milieu des hoquets. « Au moins, es-tu content d'aller à Courance ?» Je répondis « Oui ». Et je lui aurais fait tant de plaisir en lui disant « Cela m'ennuie de te quitter. » Mais je pensais à dire cela 20 ans plus tard. Félicie et mon père m'arrachèrent et me portèrent jusque sur le palier. « Et les bijoux ?» demanda la tante. « Oh, sacré Dieu, je les ai oubliés !» Le long du chemin, dans la nuit, je ne songeais qu'au plaisir de coucher à Courance. Cela ne m'était arrivé qu'une fois, un soir qu'il pleuvait trop, pour revenir à Beaumont. Et je me rappelais le petit lit dans la chambre de Valentin Pidou, qui était chargé de veiller sur moi. 5 ou 6 fois, elle me réveillait pour me demander si la pluie m'empêchait de dormir. Mais le matin, par exemple, quel beau soleil, et comme tout était plus grand et plus clair que chez nous. La fenêtre donnait sur des touffes de lilas humides. Les grappes fleuries venaient si près qu'en se penchant, on pouvait s'y mouiller la figure. Et juste au-dessous, on voyait le bonnet blanc et le dos bombé de la Boscotte assise sur une chaise, les pieds sur un tabouret, et ourlant des serviettes. Fridolin chauffait le four. La fumée rousse conservait l'odeur de la flambée de genévrier et de bruyère. La cuisinière, Clarisse, portait sur sa tête des panerées de pâtes bien levées, mobiles comme une chair grasse. On entendait les coqs, les moineaux, les pigeons, les aboiements du chien Mirabeau, et le beuglement des veaux dans l'étable. Sous le grand marronnier blanc, tout en fleurs, il y avait un tas de sable pour jouer, et on savait qu'on pourrait boire du lait frais à plein bol. Enfin, une à une, arrivaient mesdemoiselles Victoire et Adélaïde, deux vieilles filles jumelles, mes arrière-grand-tantes, grand-mère Fantin et Félicie, qui criaient d'en bas: Valentine, Valentine, est-ce que le petit a bien dormi? Après quoi, on voyait l'oncle Planté et le mari de Félicie, habillés de velours à côtes, gagner la campagne par la petite borne jaune. Oh, il ne comptait guère dans la maison, parce que Félicie lui préférait Monsieur Lamalu, un vieil ami qu'on appelait Sucre-d'orge, à cause de son bon caractère. L'oncle Planté partait, au temps de la chasse, avec son fusil et son chien, battait les landes et les bois et rentrait le plus souvent en Brenouille, en jurant comme un charretier. Le reste de l'année, il jardinait, à moins qu'il ne s'enfermât dans un pavillon à lui, où l'on disait qu'il triait des graines. On l'aimait beaucoup en secret, malgré sa rudesse, et ceux qui étaient à ses faveurs ménageaient Valentine. Valentine était l'aînée des 10 enfants du métayer voisin, âgée de 18 ans, dodue, gâtée par le bien-être. Il faudra apprendre à vous habiller tout seul, me dit-elle dès le premier soir, parce que vous comprenez, moi, je ne suffirai pas à tout l'ouvrage avec mes 10 doigts. Je trouvais la même chambre, mais le printemps manquait. On nous fit brûler des javelles. C'est toujours ça de gagner, dit Valentine. Si vous ne couchiez pas là, madame me défendrait d'allumer. En revanche, madame lui avait bien recommandé d'éteindre la bougie avant de se déshabiller elle-même. Mais cela était contraire à ses habitudes. Et je lui dis entre les draps: Oh, faut pas le gêner. Une jambe croisée sur le genou, à la caresse des dernières flammes, elle ôtait tranquillement son bas après avoir à peu près tout ôté. Elle le jeta et me tira la langue. Le lendemain, Félicie partit encore pour Beaumont avec la calèche. Elle emmenait grand-mère Fantin, sa sœur, qui devait y rester près de la malade. Quand elle revint, elle parlait d'une consultation du docteur Léveillé en hochant la tête. Elle prononça une phrase que l'on répéta souvent dans la suite: Le premier casse-capoide qu'elle verra lui entrera dans le cœur. Mais elle avait les bijoux. On ouvrit un puits perdu situé devant le perron de la maison neuve. Mesdemoiselles Victoire et Adélaïde tendaient les paquets d'argenterie enveloppés de linge. Félicie tenait la feuille d'inventaire et pointait à l'aide d'un crayon qui trouvait le papier contre la paume de sa main. On remplit ainsi 3 caisses que Fridolin cloua, ficela et cacheta. Puis on les descendit dans la fosse comme des cercueils d'enfants. 2 essieux de tombereaux rouillés furent croisés de l'office et recouverts de planches épaisses. Enfin, on jeta de la terre. Pendant longtemps, lorsqu'on passait à cet endroit, chacun frappait du talon pour éprouver le sol. Des semaines s'écoulèrent, le printemps revint. On ne parlait jamais des sujets graves devant moi. Et je m'amusais beaucoup, et il n'arriva rien. Un matin, de bonne heure, Félicie poussa la porte de notre chambre. Elle avait le teint brouillé, les yeux fiévreux. On crut que c'était le jour de ses névralgies. Mais elle ordonna à Valentine de m'emmener avec elle et d'aller cueillir des morilles. Valentine objecta qu'il n'avait pas plu la nuit et qu'on ne trouverait pas de morilles. C'est bon, je sais ce que je dis. Allez, faites-moi le plaisir de partir tout de suite. Puis elle parla à l'oreille de Valentine, qui leva les yeux, me regarda et ne dit plus mot. Pendant qu'elle traversait la cuisine, Clarisse et le Boscol se précipitèrent sur Valentine, lui parlèrent bas et me regardèrent. Nous sortîmes par la porte jaune. On était aussitôt dans les champs. Valentine courut vers une de ses sœurs, toute droite et tricotant un bas au milieu des dindons, sur un terrain pelé. Elle lui parla à l'oreille et, quand je passais près d'elle, la petite me regarda comme les femmes. Nous atteignîmes un cours d'eau presque toujours à sec qui traversait la propriété et lui donnait son nom, la Courance. Elle étendait en zigzag son lit inégal, tantôt raviné, profond ou rempli de sable, tantôt uni à fleurs de terre et tapissé d'une herbe fraîche. On ne passait pas des buissons qui l'abordaient qu'en les frappant de la canne afin de mettre en fuite les couleuvres. Et l'on s'entendait tout à coup bêler d'en bas ou par un garçon ou par une fille de ferme juchée sur le pommeau d'un orme au tronc bossu, occupée à arracher les feuilles au long des tiges nouvelles. Valentine était préoccupée et ne cherchait point de morille. Je marchais devant elle, je courais et je revenais sur mes pas comme un chien en promenade. Je lui demandais: « Mais pourquoi est-ce que tu es toute rouge ?»« Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas rouge. »« Si, tu es rouge. » Ses yeux brillaient, elle avait envie de dire quelque chose, elle soupira. « Ah, si on ne me l'avait pas défendu. » « Mais qu'est-ce qu'on t'a défendu ?»« Mais de vous le dire, donc. » « Mais de me dire quoi ?»« Ah, voilà. » « Mais pourquoi est-ce qu'on t'a défendu de me le dire ?»« Ben parce que les grands malheurs, c'est pas fait pour les enfants. »« C'est un grand malheur qui est arrivé. »« Qu'est-ce qui vous a dit ça ?» C'est toi, mais qu'est-ce que c'est qu'un grand malheur? Ça dépend. Mais est-ce que c'est d'être ruiné comme grand-père Fantin? Oh, il s'en fait de la bile, votre grand-père Fantin. Oui, avec grand-père Fantin, on ne peut pas savoir, puisque tante Félicie dit que ce n'est qu'un saltimbanque. Mais votre grand-voix, votre grand-mère, elle dit que c'est triste de vivre au crochet des autres. Est-ce que c'est papa qui est ruiné? Est-ce que c'est tante Félicie? Est-ce que c'est l'oncle Groislard? Est-ce que c'est madame le Duc? Oh non, madame le Duc, c'est la plus riche de toute la famille. Oh, vous croyez ça? La dernière fois qu'elle est venue et qu'on a mis la maison sans dessus-dessous pour elle, elle avait des trous assez bas. Ah, alors, à moins que ce ne soit quelqu'un qui est mort. Ah oui, peut-être. C'est mademoiselle Gillot? Pourquoi? Parce que c'est la plus vieille. Mais il n'y a pas que les vieux qui meurent. Non, mais alors, il faut qu'on soit tout à fait malade. Et qu'est-ce que vous appelez être tout à fait malade? C'est quand le curé vient. À ce moment, j'eus pour la première fois peur d'apprendre quelque chose de très désagréable. Je sentis que j'aimais autant ne pas m'en occuper. Et je fis observer à Valentine, ben, puisqu'on te l'a défendu, il faut pas le dire. Un chien aboyait vers la ferme d'Épinay. Valentine m'arrêta par le bras. Écoutez, on entend des voitures. Sa figure était coquelicot. Elle se hissa un pied quand on l'avait rue de Normes, et elle regardait sur la route de Beaumont. Je la tirai par sa jupe. « Mais moi, je veux voir. »« Vous le voulez ?»« Oui. »« Vous ne direz pas après que c'est ma faute. » Elle m'avait déjà soulevé et je voyais comme elle. Dans l'intervalle du frais feuillage des noyers, au-delà d'un champ d'avoine, on distinguait très bien les voitures montant au pas à la côte à la sortie du parc de Courance. La calèche allait la première, menée par Fridolin. Dans le break découvert, on reconnaissait Mademoiselle Victoire et Adélaïde, avec la biscotte, toutes enfuies sous les voiles noires, et l'oncle Planté, qui ne se déplaçait jamais. « C'est arrivé ce matin à 5h30, » dit Valentine. Nous étions, elle et moi, aussi rouges que si l'on nous eût pris à manger du miel à l'office. Je ne pouvais rien dire du tout. Pourtant, les voitures passaient à portée de la voix, et d'ordinaire, on eût crié « Bonjour, bonjour, où allez-vous donc ?» Je sentais contre mon front quelque chose de trop gros qui ne parvenait pas à se loger dans ma cervelle d'enfant. Valentine me déposa à terre. Je pris un air très affairé, Je marchais en soulevant du bout du pied le plus de cailloux possible, et je donnais de grands coups de baguette contre les buissons. Valentine fut longtemps aussi sans parler. Enfin, elle me dit: « Vous avez l'air de bouder. » Je marchais toujours du pas d'un monsieur sérieux, sans me retourner, sans faire plus de chemin qu'il ne fallait. Désormais, j'aurais cru indécent de courir. Chapitre 2. Les figures. Le jour suivant, on ouvrit la maison neuve pour recevoir la famille. Beaucoup ignoraient ces appartements, car on n'en usait que dans les circonstances solennelles ou quand venait Madame le Duc. Je jouais devant le perron, à l'endroit même où se dissimulait le puits perdu, quand j'entendis secouer intérieurement les persiennes blanches. Le bois craqua comme si la porte se déchirait par le milieu. Je vis un trou noir, étroit et haut, qui s'élargit, et Fridolin parut, les bras en croix, repoussant de droite et de gauche les lames ajourées qui se pliaient en accordéon. Il me salua, la casquette très bas, et dit: « Bonjour, monsieur Henri! » sur le ton d'un respect inusité que j'attribuais à mes premiers vêtements de deuil. Je m'élançai pour voir le petit salon. « Prenez garde !» s'écria Fridolin. « On glisse comme sur la pure d'orange !» Il était en chaussettes de tricot bleu et il relevait tous les doigts de pied en marchant sur le parquet froid. Je fus étonné de ne trouver au petit salon rien d'extraordinaire. Fridolin se baissait et tâtait les plinthes d'un revers de la main. Il aspira de l'air par sa brèche et prononça: Ne parlez pas de l'humidité, la vermine est moins ravageuse. Dans le grand salon, il dit aussitôt l'interruption de la lumière: C'est princier! Le meuble était de velours rouge. La pendule de la cheminée représentait une femme couchée. Les candélabres de bronze étaient surmontés de cigognes qui faisaient leur possible pour se débarrasser d'un serpent roulé à leurs pattes. La salle à manger n'offrait de toutes parts qu'un miroir d'acajou, et partout où Fridolin, d'un coup de manche, enlevait la poussière, sur le buffet, sur la table, au dossier des chaises, je me dépêchais d'aller souffler de grands halos de buée pour le plaisir de les voir se rétrécir et disparaître comme sur les glaces en laissant au milieu une petite goutte d'eau. Fridolin déclara: Oh, c'est pas pour faire valoir celui-ci plutôt que celui-là, mais il y a davantage de richesses chez votre grand-tante plantée que dans le château de monsieur le marquis de la Folandière. Il ajouta, en faisant tourner son bras droit comme une immense girouette: Et il n'y a pas de mal à dire ce que je vais vous dire. Ben, le malheur qui est arrivé vous rendra maître de ça 40 ans plus tôt. Malgré mon extrême jeunesse, j'étais déjà au courant de ces affaires d'héritage, tant les questions de fortune revenaient souvent dans les conversations de la famille. Combien de fois n'avais-je pas entendu Félicie dire à ma mère: Quand je n'y serai plus, tu feras ceci, ici ce que tu voudras. À propos de quoi la voix douce de celle qui venait de mourir m'insinuait régulièrement: Et ce malheureux Philibert? Oh, ton frère, c'est un grand dadais! Je demandai à Fridolin: Alors, mon oncle Philibert, lui, il aura rien? La lèvre de Fridolin se retroussa sur l'endroit des dents où l'air sifflait. Il raidit sa main abaissée, horizontalement, et faucha dans l'espace quelque chose comme une plante parasite qu'il semblait voir et qui, à ses yeux, dut tomber. Oh, celui-là, dit-il, c'est un dévoyé. Il y avait sur le compte de Philibert une histoire que je ne démêlai que plus tard, et fil à fil, parce qu'on m'envoyait toujours promener quand il s'agissait de lui. Sa vie était un mauvais exemple et il habitait Paris. Je savais qu'il dessinait, peignait des tableaux et ne réussissait pas. Lorsqu'à son sujet, quelqu'un risquait, et dire qu'il a tant d'esprit. Félicie, vous fermez la bouche d'un. Bah, ça lui fait Bourré de jambes. Philibert arriva précisément le soir de ce même jour en compagnie de son père, c'est-à-dire mon grand-père Fantin, qu'on appelait Casimir. Ils avaient dû se contenter de la carriole de Pidoux, sous prétexte que la calèche et le break attendaient au train suivant Madame le Duc et ses bagages. Philibert était très maigre et avait beaucoup de chagrin. Le grand-père Fantin descendit du véhicule avec une larme à chaque œil, mais il en versait pour n'importe quoi. On s'embrassa sous le marronnier de la cour. Personne n'osait parler le premier. On disait seulement « Ma pauvre Félicie, mon pauvre Casimir, ma pauvre tante Adélaïde, votre pauvre femme a-t-elle à passer la nuit là-bas » Grand-père demanda « Et le pauvre enfant, est-ce qu'il sait ?» Je me détournai en rougissant. Les deux nouveaux venus m'embrassèrent. Casimir n'est pas plus en odeur de sainteté que Philibert. Il avait mangé la fortune de sa femme et Félicie se souvenait d'avoir payé ses dettes. Elle le disait capable d'engloutir la mer et ses poissons. Elle le redoutait comme un fléau. Elle avait fait des pieds et des mains, après ses désastres, pour obtenir qu'il fût hébergé chez l'oncle Giscard à Langeais, loin d'elle. À la tombée de la nuit, on distingua le bruit de deux voitures et tout le monde s'agita pour recevoir Madame le Duc. Elle était la sœur de Casimir, mais personne ne lui donnait le titre de parenté si ce n'était en sa présence et l'on disait « Madame le Duc » à cause de son grand air. L'oncle Planté était seul à se permettre à son endroit une facétie qui manquait rarement de succès. En parlant d'elle, il disait « La duchesse !» Mais tout en souriant alors, on regardait du côté de portes qui ont plus d'oreilles que les murs, tant on craignait que Madame le Duc n'eût vent de cette petite liberté. Fridolin ne la faisait point descendre comme le commun des mortels sous le marronnier de la cour. Il la menait au trot depuis la grille, par un détour élégant sur l'esplanade sablée, devant la maison neuve, et il n'arrêta la calèche que juste au pied du perron. Là, on se trouvait réunis à l'avance et le cœur battant un peu, ainsi que pour la réception d'un prince. « Mon Dieu !» soupira Félicie, « pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé en route. Ordinairement, nous allons au-devant d'elle, mais aujourd'hui, en vérité, on ne sait où donner de la tête. » Madame le Duc montra le nez hors de la portière et dit « Est-ce que je couche à l'auberge ?» Un souffle glacé passa sur les épaules. Madame le Duc devait avoir été froissée. « À l'auberge ?» s'écria Félicie. « Mais que voulez-vous dire ?»« Mais, reprit Madame le Duc, votre dépêche est un peu laconique. Trouverez voiture-gare, un point c'est tout. Vous concevez ?» Heureusement, grand-père, qui était très démonstratif, l'avait déjà embrassée en poussant de petits gloussements de tendresse. Elle passa ainsi de l'un à l'autre. « Mon pauvre Casimir, ma pauvre Félicie, etc. » Et l'acrimonie du premier moment se trouva noyée dans les larmes. Grâce à la présence de Madame le Duc, on dîna dans la salle à manger d'acajou et l'on passa la soirée dans le salon de velours rouge. L'oncle Planté était de mauvaise humeur parce qu'à cause de la duchesse, on employait Valentine à la cuisine et parce qu'il n'osait ni jurer ni bourrer sa pipe. Chacun se surveillait de peur de laisser échapper une expression qui put être mal interprétée. Non Casimir, toutefois, qui allait toujours de l'avant. Mesdemoiselles Victoire et Adélaïde baillaient à qui mieux mieux. Philibert crayonnait. Félicie allait et venait en invoquant à chaque entrée ou sortie le prétexte d'ordres à donner. Madame le Duc parlait des calamités publiques et de son fils qui était dans la magistrature. Au grossissement qu'elle donnait à ces mots, je compris que les Prussiens avaient mis fin à la guerre pour permettre à ce fils de recouvrer ses fonctions de substitut. Le Sacré-Cœur de Jésus, les zouaves pontificaux, les communards et le comte de Chambord étaient les termes qu'elle employait le plus souvent. Et toutes les fois qu'on risquait une allusion à la cérémonie du lendemain, due au malheur qui nous réunissait là, on me regardait comme si ce malheur eût été sur moi. Valentine me fit raconter en me couchant ce qui s'était passé au grand salon. Oh, d'abord, c'est pas la peine de faire ma prière parce que Madame le Duc l'a récité tout haut, pour tout le monde et en latin, tu sais, comme ça. Bo, 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 bo. Et puis à un moment, c'est le grand-père Fantin qui me répondait comme ça. Bou, 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 bou. Et votre tante Félicie, qu'est-ce qu'elle a dit de ça? Tante Félicie, oh, elle a rien dit. Parce qu'elle a peur de Madame le Duc. Ben, l'oncle Planté, lui, il est sorti en bougonnant. Sacré farceur de Simagré! Valentine était au lit, qu'elle répétait encore en contrefaisant la voix de Madame le Duc et de son frère. Bou, 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 bou. Elle ne m'éveilla le lendemain que très tard. Et quand je descendis, il n'y avait plus personne à la maison que la cuisinière Clarisse et Madame François, la gouvernante du curé de la ville aux dames, qu'on employait dans tout le pays pour les grands repas. Valentine me dit confidentiellement, « On ne vous a pas emmené parce que vous êtes trop impressionnable. » Madame François racontait des histoires à perte d'haleine en tournant ses sauces, et elle était très comique de sa personne, ayant une petite voix flûtée, un bout de nez pointu et luisant, et des lunettes bleues larges comme des pièces de 5 francs. En outre, on savait qu'elle portait une perruque et une crinoline. Monsieur le curé Fonbonne, son maître actuel, était mêlé à toutes ses aventures, ainsi que plusieurs de ses confrères. Du même ton qu'elle m'eût confié « Il aura de la crème », elle m'annonça que monsieur le curé serait du déjeuner. La grille était restée ouverte après le départ des voitures, et des chiens étrangers erraient dans le jardin, la queue basse, le museau reniflant le sol. Je fis observer ce désordre à Valentine. « Oh, si tante Félicie voyait ça !» Elle me répondit. « Ben, ce n'est pas aujourd'hui un jour comme un autre. » On arriva par Paquet Noir vers midi. La calèche était pleine. Le break était plein. Je reconnus mon père dans son tilbury avec Casimir. Après venait le cabriolet de M. Labalu, le bon ami de Félicie, qui avait pris à côté de lui M. le curé de la ville aux dames. Et on attendit encore Philibert 20 minutes avant de se mettre à table, car il n'avait pu trouver de place dans tout cela. Il revint seul et à pied. Mon père pleura beaucoup lorsqu'il m'embrassa. Félicie, témoin de sa douleur, lui dit en me montrant du doigt, « Mais maintenant, c'est pour cet enfant-là que nous devons défendre notre bien. » Il comprit, à travers ses larmes, le sens avantageux de ses paroles et saisit la main de la tante. Le temps était magnifique et même un peu chaud. On avait fermé les persiennes de la salle à manger pour éviter le soleil qui, par une longue fente, réduisait ses rayons en une sorte de cloison lumineuse où une poussière dorée dansait la sarabande. Les mouches salissaient les desserts et venait parfois une abeille pour poser lourdement au bord des compotiers. Madame le Duc, ainsi qu'il fallait s'y attendre, avait pris le haut de la conversation. Elle abondait en idées nobles et généreuses et on la savait capable de les mettre en pratique. Elle prêchait la dignité de l'institution familiale, la solidarité nécessaire de ses membres, et elle traversait la France de part et d'autre pour assister au baptême, au mariage, aux obsèques d'un arrière-cousin. Pour un anniversaire, pour une rougeole, pour l'espoir d'une grossesse, elle vous écrivait des lettres à la manière d'un Sévigné. Elle prodiguait des conseils, elle ouvrait sa bourse à tout le moins. On était assuré qu'elle priait pour vous. On trouvait sa vie édifiante. Non, prétendait monsieur Lamalu en allumant ses petits yeux gris, car elle fait douter de la justice de Dieu. Comment cela? Parce que récompense, il aurait dû lui donner pour 2 liards de bonne grâce. C'était cela en effet qui lui manquait. Si flatté que l'on fût d'approuver ses théories, le cœur ne s'y prenait point. Au fond, elle n'amusait personne, mais chacun sentait que c'était ce qui convenait aujourd'hui. Cependant, lorsqu'elle aurait avoir parlé de notre perte cruelle avec une éloquence trop aisée, elle nous invita à remercier la Providence pour avoir distingué notre famille par une épreuve particulière. On fut gêné. Monsieur le curé Fonbonne sauva la situation. Remercions la Providence, dit-il, de nous accorder notre pain quotidien et d'inspirer la cuisinière de Madame Plantée des matelotes aussi réussis. Mais ce n'est pas ma cuisinière qui mérite des éloges, dit Félicie. Monsieur le curé, c'est la vôtre. Oh, jamais de la vie, j'ai pas mangé depuis 15 ans de matelotes pareilles au presbytère. Mais nous en aurons le cœur net. Valentine, appelez donc Madame François. On vit entrer, tout étourdi par la pénombre, la célèbre cuisinière du curé de la Ville-aux-Dames. Elle relevait son tablier d'un bras serré jusqu'au poignet par une fausse manche de lustrine et étalait une main avec modestie contre la bavette blanche épinglée méticuleusement sur son sein. Son petit nez fureteur, au-dessous des conserves bleues, allait de droite à gauche, et elle ressemblait assez à la tête d'une belette ou d'un rat sorti de l'ombre et surpris de voir de la compagnie. Eh bien, Madame François, voilà Monsieur le curé qui ne veut pas croire que c'est vous qui avez fait la matelote. Sa voix menue sembla venir d'un petit trou de flûte. Eh mon Dieu, Madame Plantée, comme disaient des fins Monsieur le curé de Chabusset, ne faut-il point toujours confesser la vérité? Oui, bien, c'est bien moi qui ai fait la matelote.
Saperlipopette! S'écria le curé Fonbonne. Mais comment se fait-il que vous n'en ayez jamais mis une au point comme celle-là?
Madame François agita sa figure futée. Elle semblait sourire par le bout du nez, car on ne lui voyait pas les yeux sous ses disques d'azur. Et sa bouche était close respectueusement. Elle avait l'air de ne point vouloir parler, et cependant elle parla. Monsieur le curé, dit-elle, on comprendra facilement la raison. C'est que le vin de Madame Plantée est bien meilleur que le sien. Elle jouit de son succès et se retira, tandis que Félicie disait à l'oreille du curé: Je vous en enverrai quelques bouteilles. Le bon curé prêtait volontiers sa servante en se laissant inviter dans les maisons où elle était rémunérée à souhait, et l'un et l'autre y trouvaient avantage. Grand-père Fantin, qui était plus gourmand que le curé Fonbonne, profita de la circonstance pour raconter l'histoire d'une certaine dinde à la chipolata qu'il avait mangée pendant l'exposition universelle de 1867. Elle avait pour but d'amener ceci. Lord Bolingbroke, en me gratifiant d'un vieux chicken, me dit: Fantin, vous croyez connaître la chipolata, mais la première fois que vous viendrez à Londres, faites-moi donc l'amitié, etc., etc. Quand grand-père Fantin entamait cette histoire, chacun s'évertuait à la couper net et le plus tôt possible. D'abord, c'est parce qu'on la savait comme son pater. Ensuite, parce qu'il était pénible de le voir étaler ses fastueuses relations, qu'il s'enorgueillissait d'avoir eues dans le temps même où il faisait les affaires les plus déplorables. Après Lord Bolingbroke venait immanquablement Napoléon III. Sa Majesté s'était fort intéressée à un projet de charrue à vapeur, et en serrant la main de l'ingénieux inventeur aussi violemment que le noble anglais, lui avait affirmé d'une voix émue: Fantin, nous avons l'œil sur vous. Il parlait de ces choses avec une inconscience absolue, tandis qu'autour de lui, les mémoires retraçaient la terrible aventure. La faillite à la fermeture de l'exposition, la ruine, la prison pour dette, ma grand-mère ici présente mendiant un emploi à Paris, la jeune fille, la morte d'hier, un mariage manqué, accourant toute seule à pleurer la charité des parents de province, Lord Bolingbroke, Sa Majesté, la dinde à la chipolata, la nature heureuse de Casimir, n'avait retenu que ces mots sonores et ces mirages. Les jours où l'on négligeait la cérémonie, Félicie l'interrompait en disant « Casimir, passons à la période contemporaine. » Car on divisait la vie de grand-père Fantin en quatre périodes comme un règne. Chacun débutait comme un âge d'or et se terminait par une catastrophe. La première était la période africaine. Il était question de chaînes lièges, d'arabes en révolte, de campements sous la tente et de cris de chacal. Une série d'éblouissements suivie d'un brusque retour de la vente du mobilier, des livres, de la dernière chemise. La seconde période était celle de Londres en 1855. On y entendait tinter des palais de cristal, des jeunes reines pleines de fraîcheur et des princes consorts, etc. La troisième était à baptiser période de la chipolata. Enfin, la quatrième, qui durait encore, était celle du vieil oncle Goalard, un oncle à la mode de Bretagne dont Casimir convoitait l'héritage et en attendant usait les redingotes malheureusement un peu étroites. Et comme on ne connaissait guère l'oncle Goalard que par les narrations de grand-père Fantin, c'était encore des féeries que ce nom évoquait. Chez l'oncle Goalard, les dîners étaient de 30 couverts, les dames nombreuses, jeunes, belles et toujours en peau, à moins que ce ne fût outrageusement décolleté. Elles portaient des noms magnifiques et demeuraient dans des châteaux. Trois ou quatre personnes, pour passer à un sujet anodin, s'écrièrent ensemble. « Et avec tout cela, qu'est donc devenue mademoiselle Gilliard ?»« Mais demandez-le à monsieur le curé de la ville aux champs, » dit Félicie. « Il la voit plus souvent que nous, car elle se fait de plus en plus sauvage, elle ne vient même plus à la maison, avant qu'il ne fasse de l'orage, cela gravement. Pour qu'il y ait une éclipse. Oui, elle vient aussi, quand elle a lu dans ses almanachs l'annonce d'une éclipse de lune ou de soleil. Oh, sa terreur est de mourir au milieu d'un cataclysme. Elle se monte la tête dans la solitude. Oh, j'ai essayé d'introduire chez elle une petite bonne. Oh, ben oui. Pas un être humain n'a pénétré depuis 3 heures dans la pièce qu'elle occupe chez Pidou. Le dimanche, dit le curé Fonbonne, mademoiselle Gillot, qui a aimé des animaux comme un Saint-François d'Assise, est suivie jusqu'à la ville aux dames par une douzaine de perdreaux apprivoisés. Ils se tiennent sous ses jupons pendant la grand-messe et leur conduite est exemplaire. Ce sont mes plus fidèles paroissiens. Mais aussi, monsieur le curé, faut-il avouer que votre servante les gâte. Oh, madame François se contente de déposer sous la chaise de mademoiselle Gillot quelques œufs de fourmis qu'apprécient les petites bêtes. Il est vrai que votre respectable tante ne s'est jamais doutée du subterfuge. Avoir ses perdreaux aussi sages, elle les croit bons chrétiens. Madame le duc pinçait les lèvres parce qu'elle était très choquée des innocentes plaisanteries du curé. Elle ne concevait pas non plus qu'une personne de la famille vécût à la façon de la vieille mademoiselle Gillot. Mais mademoiselle Gillot, presque centenaire, gardait les habitudes de simplicité reçues dans sa jeunesse, et ce qu'elle nommait le luxe de courance l'incommodait. Elle portait un bonnet blanc comme les ancêtres, et quand elle venait, il fallait la croix et la bannière pour l'attirer plus loin que la cuisine. Ce fut pour chacun une occasion de proclamer ses principes sur la famille. Enfin, on quitta la table, d'accord sur ce point que, si la France était appelée à se relever de ses désastres, elle devrait à
l'union sanctifiée par l'amour et le désintéressement de tous les citoyens autour du foyer. Mon père offrit son bras à Félicie et aussitôt à part lui souffla « Il y avait un testament !» Philibert m'entraînait. Il fut rejoint au petit salon par son père dont le teint flambait. « Un mot, mon garçon !» Grand-père Fantin lui prit la main, la lui serra, la lui tapota de caresses maternelles. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Philibert. « Je te le donne en sang. Finis, je t'en prie. » La voix de Casimir s'émietta tout à coup en trémolo, comme s'il eût tiré un registre à l'harmonium. « Mais ta pauvre sœur, mon ami, ta pauvre sœur, eh bien, elle nous a laissé à chacun. Ah, elle nous a laissé quelque chose. 20 000 francs. » Ses lèvres se retroussèrent aux deux coins en toit de pagode. Je sentis trembler la grande main de Philibert qui tenait la mienne. Il me lâcha, porta son mouchoir à ses yeux et s'en alla dans le corridor. Grand-père Fantin haussa les épaules. Les 20 000 francs lui causaient à lui un tout autre effet. Il allait dandinant et hochant de droite et de gauche. Il encensait tout, venant des basques trop longues de l'étroite redingote. La nouvelle se répandait. Monsieur Labalu lui dit oh, « Je vais vous mettre du beurre dans vos épinards. » Madame le Duc lui demanda « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Puis elle s'acharna après lui. Elle lui tortillait un bouton de gilet, elle époussetait ses revers à coups de mignonne chiquenaude. Elle finit par l'entraîner dehors. Monsieur le curé Fonbonne, étalé sur un siège, fumait comme un propriétaire. Je m'empressai d'aller le dire à Félicie au grand salon. Elle avait d'autres choses à fouetter. Elle était tellement en colère qu'elle baissa à peine le ton quand j'entrais. 20 000 francs à ton mari, mais malheureuse, tu comprends donc pas que c'est de l'argent jeté à la rivière. À la rivière, qu'est-ce que tu dis? Mais il n'a jamais eu liard en poche sans le risquer dans une aventure. Veux-tu que je t'apprenne ce que ça nous coûtera, les 20 000 francs de Casimir? Ça nous en coûtera 100 000. Il m'a juré de les placer, disait grand-mère. Tu crois ça, toi? Tu le crois encore, après 35 ans, qu'il te nourrit de balivernes? Mais je t'assure qu'il a toujours été sincère. C'est pas sa faute s'il n'a pas eu de chance. Ah, c'est comme cela que vous raisonnez, vous autres. Il n'a pas eu de chance. Et il en aura peut-être davantage demain, n'est-ce pas? Mais la chance, c'est d'avoir quelque chose dans la caboche. Et quand on n'a pas encore senti sa cervelle à l'âge qu'il a, il est permis de supposer que ce qu'on porte entre les deux épaules, c'est un grelot. Ah, il va toucher 20 000 francs. Eh bien, écoute-moi, Célina. Avant 6 mois, je parie ma tête que tu seras là à te traîner à mes pieds pour me prier de boucher les nouveaux trous que ton bonnet de mari aura creusés. Elle marchait d'un grand pas dans la pièce demi-obscure. Elle faisait rouler les chaises et les fauteuils sur le parquet pour les aligner. Puis elle en bouleversait l'ordonnance et en imaginait une nouvelle. Cela produisait un bruit sourd, presque continu, pareil à des orages lointains. Grand-mère n'osait souffler. Et Félicie se répondit à elle-même. « La famille, la famille. Mais ils s'imaginent avoir tout dit dès qu'ils ont eu ce mot-là à la bouche. Mais quand la fortune a sombré, qu'est-ce qu'elle devient à la famille? Je vous le demande un peu. C'est très joli, ma parole, d'être tous réunis autour d'une même table et de s'y frotter les coudes les uns contre les autres. Mais à la condition qu'il y ait quelqu'un qui paye le dîner. » Et elle alla vers la fenêtre, elle l'ouvrit. Il vint au travers des volets une bouffée d'air chaud qui sentait la verveine. « Mais c'est comme Philibert !» poursuivit-elle. « Il ne sait seulement pas ce que c'est que l'argent. Il va ne faire de cela qu'une bouchée. »« Pauvre garçon avec toutes ses charges. On me regarda comme toutes les fois qu'il s'agissait de Philibert, on n'insista pas. J'étais venu m'asseoir sur le rebord de la fenêtre. On entendait, avec le grand bourdonnement de tout ce qui vole dans le soleil, le murmure des voix de Casimir et de sa sœur, assis non loin de là, sous les noisetiers. Je poussai la persienne pour les voir, et une phrase de grand-père Fantin nous arriva toute chaude. Notre cœur nous interdit de te laisser dans le pétrin. Félicie bondit, elle s'approcha de la fenêtre. Madame le duc, à grand geste de la main, abattait la voix de Casimir, et l'on distingua plus rien que des mots de loin en loin. Bon, c'est pas que nous soyons gênés. Malheureuse guerre. Pèlerinage votif à Saint-Andoré. Pension. Ma petite fille au Sacré-Cœur. Mais grand-père semblait faire exprès de prononcer très haut. Mon argent te tire d'embarras. Moi aussi, j'ai connu la misère. Que diable, patientant jusqu'à la mort de l'oncle Goualard. Mon argent, quant à ta détresse, mon argent. Elle envoyait le bras de Madame le Duc agité comme si elle chassait de la fumée. Mais tais-toi donc, mais tais-toi donc. Félicie tomba dans un fauteuil. Ah, bien, dit-elle, il manquait plus que cela. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a que Madame le Duc demande de l'argent à ton mari. C'est pas possible. Là, là, sous les noisetiers, j'ai entendu mes oreilles entendues. Avec le train qu'elle-même, elle devrait en arriver là. La malheureuse est au bout de son rouleau. Demander de l'argent à Casimir, répétait grand-mère pour la première fois qu'il en a. Je fus très heureux de trouver à placer mon mot. Tante Valentine m'a dit que quand Madame le Duc est venue à Courance l'année dernière, elle avait des trous assez bas. On me mit à la porte.